enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous sommes dans une série de messages, deuxième partie, sur le pardon des offenses. Nous allons regarder à l'évangile de Matthieu dans quelques minutes, mais vous pouvez tourner maintenant à Matthieu chapitre 5. Et gardez votre Bible ouverte, on va lire le texte dans quelques minutes, Matthieu chapitre 5, les versets 21 à 25. Et nous arrivons à la deuxième partie de cette série pendant les prochains mois, les mois de mai et de juin, sur le pardon des offenses. Et lorsque nous parlons du pardon des offenses, je crois que le pardon et le non-pardon sont certains des sujets les plus importants de notre époque. Cette semaine, alors que je préparais ce message sur le pardon, j'avais sur mon cœur cette pensée, et ça brûlait sur moi en regardant des choses qui prennent place dans l'actualité, que la modernité ne fait pas disparaître le mal ou la méchanceté. Que l'homme moderne et que les gens dans la société moderne dans laquelle nous vivons, les gens, on a toutes sortes d'avancements qu'on a eus qui sont bien technologiques, de sciences, de médecine, toutes sortes de choses. Nous avons beaucoup avancé au niveau modernité. Mais que la modernité ne rend pas l'homme meilleur, que la modernité ne change pas le cœur humain. Qu'au milieu de la technologie la plus avancée, les hommes et les femmes sans Dieu sont capables, ici dans cette province, dans ce pays et à travers le monde, sont capables des choses les plus méchantes, des choses les plus anciennes, comme si des barbaries les plus anciennes, comme si l'homme sans Dieu, livré à lui-même, peut avoir la technologie dans les mains, mais le mal est encore dans son cœur. Et cette semaine, je réfléchissais à cela, que c'est seulement, je crois que ce message de pardon, il est important pour nous ici dans l'Église, mais il est important aussi dans l'époque dans laquelle nous vivons. Je crois que la modernité ne peut pas changer un cœur humain, que c'est seulement une relation avec Dieu, une rencontre avec Dieu, où Dieu te communique son cœur, où tu meurs à ce que tu étais auparavant et tu découvres une nouvelle naissance, un nouvel esprit, une nouvelle capacité en Dieu. C'est seulement une communion avec Dieu qui peut changer la méchanceté du cœur d'un homme. Cette semaine, alors que je méditais cette série sur le pardon, d'entendre dans l'actualité, sur une émission de Paul Arcand, d'entendre cette interview bouleversante avec cet homme qui, je pense qu'ils sont 9 enfants, mais qui ont été une histoire d'horreur derrière des portes closes, de violence et de pédophilie et d'avoir été abusé, violenté, attaché, brûlé, battu, violé. Par le père de famille et toute les enfants, après toutes ces années, ont porté des charges maintenant en cours et ils ont demandé à ce que la vie la vie de non-publication soit enlevée. Ils veulent que ça soit public. Et alors qu'il les interviewait, à travers plusieurs choses qu'il leur demandait, il demandait à ce monsieur-là en particulier, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vouloir que ça soit public? Puis vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Puis il expliquait juste ce que lui avait vécu, les sévices, la violence, d'être traité comme un animal que lui avait vécu. Et à un moment donné, un cri du cœur, j'étais dans ma voiture, puis j'étais ému juste de l'entendre, le monsieur qui dit, ben pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi aller public? Puis il cherche une libération. Il dit, pour telle raison, mais aussi, il dit, parce que si je me débarrasse pas de ça, si je ne suis pas capable de me détacher de ça, je vais mourir. Je pensais à ce message sur le pardon, ce relâchement. Et sans l'Esprit de Dieu, sans une relation, une communion avec un Dieu vivant qui nous permet d'aimer, de pardonner, d'être transformé, la modernité ne change pas la méchanceté du cœur de l'homme. À chaque semaine, il y a, sur un site Internet, il y a le vidéo de la semaine, le clip de la semaine sur YouTube, et puis c'est celui-là qui a été le plus téléchargé cette semaine dans le monde entier. Il y a toutes sortes de vidéos, toutes sortes de clips qui ont été pris, et cette semaine, malheureusement, tristement, c'est très bouleversant, des millions de personnes ont téléchargé un clip qui a été pris par des téléphones cellulaires qui filment, et puis c'est une scène qui a pris place en Irak d'une jeune fille qui a seulement 16 ans et qui est entourée par des membres de sa famille qui la lapident à mort. Les membres de sa famille qui lui lancent des pierres, et tu le vois, et tout le monde entier le regarde dans tous les détails, et c'était tellement tellement hallucinant, alors qu'il la frappe à coups de poing, à coups de pied, elle s'effondre, puis il y a tout un cercle autour, et c'est sa famille la plus proche, ses pères, mères, frères, sœurs, cousins, c'est les gens les plus proches, et alors qu'il lance des pierres, et finalement, avec des morceaux de blocs de ciment, et jusqu'à mort, tu vois clairement les policiers qui sont là, et eux tiennent la garde afin de s'assurer que la famille va bien, va avoir la liberté de faire ce qu'elle fait. Et dans ce pays, ils appellent cela un crime d'honneur. Que c'est dans l'aveuglement de leur concept et de leur pensée et l'aveuglement de leur haine et de non-pardon sur des millénaires et des générations, cette jeune fille-là a commis le crime. Ils disent, tu as déshonoré notre famille parce qu'elle a fréquenté quelqu'un d'une autre religion. Elle a fréquenté un garçon qui est d'une religion à côté, et puis, à cause de cela, tu as déshonoré notre famille, et maintenant, la police est là pour protéger le droit de cette famille qui la lapide et le monde entier qui la regarde. Comprenez-vous le paradoxe? Comprenez-vous l'anachronisme du moderne et de la méchanceté? Ne pensez jamais que la modernité, la technologie et l'avancement de la modernité vont changer le cœur humain. Vous avez cette scène hallucinante de gens qui ont la technologie la plus fine pointe dans les mains, sont capables de filmer l'horreur du mal de leur cœur, la modernité qui ne change pas le cœur humain. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais vous déclarer, je méditais cette pensée de pardon. J'aimerais vous dire que non seulement ici, dans l'Église, mais John Lennon a écrit une chanson qui s'appelle Imagine. Et moi, je vous dis ce matin, imaginez la puissance du pardon. Imaginez ce qui peut prendre place, ce qui pourrait prendre place. Imaginez comment ce message est pertinent. Imaginez lorsque le pardon touche des vies humaines et permet une personne à la fois ce qui peut prendre place, ce qui peut être relâché, ce qui peut être bâti, ce qui peut être évité. Imaginez le pardon dans des couples mariés. Imaginez le pardon des enfants envers leurs parents. Imaginez le pardon des parents envers leurs enfants. Imaginez le pardon dans des pays comme le Rwanda, le Darfour, l'Irlande du Nord, le Moyen-Orient. Imaginez le pardon en milieu de travail, entre frères et sœurs dans les familles. Imaginez le pardon dans les églises, entre les églises et entre les mouvements chrétiens. Imaginez, je vais vous dire qu'il y aurait un déversement, un relâchement de réveil et d'action miraculeuse. Ça semble tellement simpliste, mais je le crois tellement profondément que si seulement chaque leader, chaque église, chaque mouvement d'église était consumé par ce cœur de se relâcher, de se pardonner, de s'aimer, de se soutenir, il y aurait un déversement extraordinaire de l'action de Dieu. C'est imaginer le pardon dans les églises, entre les mouvements chrétiens. Imaginez chaque église dans la province de Québec qui est paralysée, tournée, recroquevillée sur elle-même. Pas d'énergie, pas de force, pas de vision passée à aller gagner l'extérieur, à faire le bien, à aider des pauvres, à secourir des gens captifs. Non, non. Toute l'énergie passée à se déchirer l'un l'autre. Imaginez chacune de ces églises investies où chaque leader qui en a la capacité ouvre son cœur, pardonne, relâche, ferme la porte à l'ennemi et ouvre la porte à l'Esprit de Dieu. Imaginez si vous décidiez de faire le choix du pardon. Je ne peux pas changer le Moyen-Orient en ce moment, je ne peux pas changer le Darfour, je ne peux pas changer le Rwanda, mais je peux prendre une décision dans ma vie. Je peux prendre une décision dans mon cœur ce matin. Cette notion de choix du pardon, elle nous frappe parfois même de l'actualité. Cette semaine, il y a eu encore des funérailles de jeunes filles, de jeunes hommes qui sont décédés pendant la tuerie qui a pris place aux États-Unis dans le collège américain à Virginia Tech. Et encore cette semaine, des jeunes filles dans la fleur de l'âge qui sont mises en terre, qui ont tombé sous les balles du tireur fou. Et une de ces jeunes filles, c'est assez touchant, de ces jeunes filles, Mary Reed, et on dit d'elle, c'est une jeune fille qui avait le sourire en tout temps, et qui appelle, même dans sa mort, appelle ses parents qui sont révoltés, qui sont remplis de colère, les appelle au choix du pardon. Il apparaît que cette jeune fille avait un journal personnel où elle écrivait des pensées, des choses qui étaient importantes pour elle. Elle disait, c'est avec ça que je veux guider ma vie, c'est ça qui me parle. Et la dernière entrée qu'elle a mise, les dernières paroles qu'elle a écrites avant d'aller tomber sous les balles du tueur, étaient concernant le pardon. Et l'article qui apparaît à l'écran dit ceci, ça a passé dans le USA Today, essayant de pardonner, mais non d'oublier. Comment le supporteront-ils? Parlant des parents, comment est-ce que les parents vont être capables de supporter leur douleur? Ils pourraient prendre une page extraite d'un petit cahier rouge à l'intérieur duquel Mary Reed prenait en note ses citations préférées, un cahier dont son père a découvert l'existence le matin même des funérailles de sa fille. La toute dernière entrée dans son journal personnel que cette collégienne toujours souriante allait inscrite et qu'il a lu, que son père a lu devant des centaines de sympathisants cette journée-là à sa funéraille, traitait de la puissance du pardon. Mary avait écrit quelques heures avant sa mort, « Lorsqu'une blessure profonde nous est infligée, nous ne pourrons jamais vraiment s'en remettre jusqu'au moment où nous décidons de pardonner. » Partout dans l'actualité dans le monde qui nous entoure, qui ceux qui façonnent l'histoire des hommes, qui ont un impact et des femmes sur l'histoire, ont eu à prendre la décision du pardon. Dans son livre, dans le livre de Brian Frost, qui s'intitule « Struggling to Forgive » ou « Le combat pour le pardon », qui est la vie, la biographie de Nelson Mandela, et le titre du livre, c'est « Le combat pour le pardon, Nelson Mandela et la recherche de l'Afrique du Sud pour la réconciliation ». Il y a une citation de Mandela là-dedans qui a été 27 ans emprisonné sous l'apartheid par racisme, loin de sa famille, loin de ses enfants, loin de tous, et emprisonné. Et lorsqu'il a finalement été libéré, il avait le pouvoir d'enflammer le pays au complet. Il y avait tellement de millions de personnes qui étaient révoltées de ce qui lui était arrivé. Il avait le pouvoir d'enflammer le pays dans une révolte et dans une guerre civile, et il avait été préparé alors que pendant des années, il y avait eu un combat et une œuvre de pardon en lui. Et lorsqu'il est apparu sur la scène mondiale, c'est avec une parole de réconciliation qu'il a faite. Et lorsque dans sa biographie nous lisons ces mots, je crois qu'il interpelle chacun d'entre nous. Mandela a dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier pour découvrir que la personne, c'était vous. Pensez que lorsque pardonnez, vous libérez quelqu'un, c'est vous que vous libérez. Seuls les courageux savent pardonner. J'ai compris que le pardon me rendait libre. Même lorsque mes circonstances et ma condition de prisonnier ne changeaient pas, j'ai été rempli de la conviction que si je ne faisais pas le choix du pardon, je serais un captif toute ma vie. Même après la libération d'entre ces murs, le non-pardon et la soif de vengeance m'auraient gardé derrière des murs avec des chaînes aux pieds, même sorti de cet endroit. Par le pardon, je suis déjà libre et personne ne peut m'emprisonner. Je veux déclarer à chaque personne qui est prête à pardonner que personne ne va pouvoir vous emprisonner. R.T. Kendall, dans son livre « Total Forgiveness », un best-seller sur le pardon, a dit ces mots qui, pour moi, est extrêmement important. Il a dit « Je suis plus convaincu que jamais que la clé du pardon se trouve dans la dernière syllabe du mot. Le pardon, c'est un don que nous accordons à ceux qui ne le méritent pas. » C'est nous qui donnons, par grâce, comme nous avons reçu le pardon. Le pardon est un choix. C'est le choix, littéralement. C'est un choix. C'est un choix que nous faisons à chaque jour. J'aimerais vous dire que faire le choix face au pardon ou au non-pardon peut déterminer beaucoup de choses. Faire le choix de pardonner ou de non-pardonner, c'est faire le choix de retenir et de refuser de pardonner. Et faites le choix de retenir et vous serez réduit. Un chrétien qui retient l'offense va être réduit dans sa louange, réduit dans sa foi, réduit dans l'essence de Christ sur lui, réduit dans sa patience, réduit dans sa joie, réduit dans sa communion avec Dieu. Faites le choix de retenir et vous serez réduit. Faites le choix de l'amertume et vous serez attaché vous-même. Faites le choix du jugement et vous perdrez la joie. Faites le choix de briser des relations, vous allez perdre la bénédiction. Faites le choix de la rancune et vous allez reculer. Faites le choix de l'entêtement et vous allez peu à peu vous éteindre. Le pardon, c'est un choix. Libérez et vous serez libérés. Voulez-vous dire à voix haute? Dites à voix haute avec moi. Libérez et vous serez libérés. C'est alors que vous libérez d'autres des offenses envers vous que vous allez trouver la libération. Il y a un docteur, un MD, le docteur Bruce Larson, qui a écrit un livre intitulé « La santé, c'est beaucoup plus que de ne pas être malade ». Et il a étudié une série de facteurs non médicaux qui affectent dramatiquement la santé. Et durant ses études, une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a visité une association de centres de réhabilitation pour femmes qui était celui que le gouvernement américain a considéré comme ayant le plus haut taux de succès, avec des concepts extrêmement simples mais puissants, plus haut taux de succès pour réhabiliter des femmes de la drogue, de la toxicomanie, de la dépression, de l'abus, de leur passé lourd, des femmes qui sortaient de prison et tout ça. Et lui, une des choses qu'il a marquées, c'est qu'il a visité plusieurs de ces centres à différents endroits des États-Unis, et lorsqu'il entrait dans la salle de séjour ou la salle principale où les thérapies prenaient place, il y avait une des pensées de fondation, une des pierres angulaires de toute leur philosophie était là sur le mur. Il y avait toujours cette immense pancarte où il était écrit « Avoir raison ou guérir et grandir. C'est un choix, le pardon. Et il raconte dans son livre que les intervenantes lui disaient qu'un des plus grands combats pour amener ces femmes-là à une guérison, une restauration, une délivrance, hommes et femmes, c'est cette capacité qu'a l'être humain de passer toute sa vie à simplement combattre pour essayer d'avoir raison. À blâmer, justifier, c'est lui, c'est elle, c'est ce qui m'a fait. J'avais raison. Non, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est lui. Et alors que tout cette et eux présentent, c'est un choix, passer toute ta vie à avoir raison ou relâcher d'avoir raison pour guérir, pour recevoir, pour grandir. Dites à la personne près de vous, c'est pas important qui a raison. Dites à la personne près de vous. Dites à la même personne, l'important, c'est de guérir et grandir. Le pardon, c'est un choix. Tout le monde connaît la citation d'Alexander Pope. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. To err is human, to forgive is divine. Alexander Pope a écrit cela. Mais pour nous, comme chrétiens, comme croyants, nous croyons que cette démarche, que Dieu imprègne, imbibe, transcende, Dieu est au centre de notre démarche de pardon. Que c'est ça, c'est par lui et pour lui que nous pouvons pardonner. Que quel que soit le péché qui a été commis contre nous, quel que soit notre passé, quelle que soit notre personnalité, quelles que soient les peines que nous avons vécues, que Dieu peut et veut nous rendre capables de relâcher, de pardonner, de laisser aller et de guérir. Lorsque nous regardons la pensée chrétienne, je crois que le pardon, c'est l'essence même de Dieu communiqué aux hommes. Je crois que l'Église chrétienne est à son plus beau, à sa plus belle, que l'Église chrétienne brille le plus puissamment lorsqu'elle pardonne. Que l'Église chrétienne est belle, elle est vivante, elle a quelque chose à dire, elle est actuelle, elle est contemporaine, elle est pertinente, elle a un message pour la société, elle a quelque chose de puissant à communiquer, elle est à son mieux et à son meilleur lorsqu'elle pardonne. J'aimerais vous dire que je crois tout aussi fortement que l'Église chrétienne devient risible, inutile. Elle devient complètement archaïque, elle devient complètement inutile, elle devient sans aucune utilité dans notre société et elle devient méprisable lorsqu'elle refuse de pardonner. Lorsqu'en bon québécois, elle parle de Dieu long comme le bras, mais elle n'est pas capable de s'ouvrir les bras et de pardonner. Que l'Église qui parle de Dieu à un monde déchiré et parle de religion et parle de Dieu et parle de salut, mais sans aucune manifestation à l'intérieur de quelques esprits différents, attitudes différentes ou capacités à pardonner perd toute crédibilité. L'Église est belle lorsque Dieu en elle est vécu à chaque jour et à l'amour et la capacité de pardon que nous avons les uns pour les autres. Ceux qui ne le connaissent pas découvrent que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, que son esprit vient nous risquer. Amen ce matin. C'est par Dieu et pour Dieu que nous pardonnons. Il est au centre de la démarche de pardon. Nous pardonnons par Dieu. Nous pardonnons parce que Dieu nous en rend capables. Nous pardonnons parce que Dieu nous a ordonné de le faire et qu'il veut notre bien. Nous pardonnons parce que c'est Dieu qui nous en donne la force. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné à nous l'impardonnable et nous a donné la vie. La folie de l'aveuglement des gens, des chrétiens qui refusent de pardonner, c'est que nous n'existons, nous ne sommes vivants aujourd'hui, nous respirons et nous goûtons aux bénédictions de Dieu seulement parce que Dieu nous a pardonné l'impardonnable. Nous avions besoin de son pardon et combien d'entre vous avez besoin de son pardon à chaque jour? Alors la laideur et la folie d'un peuple qui vit par le pardon mais refuse de l'accorder. Nous pardonnons à cause de Dieu. Nous pardonnons parce que Dieu s'occupera lui-même de celui qui nous a fait mal. Il s'occupera de nous si nous pardonnons. Nous pardonnons parce que nous tenons davantage à Dieu qu'à notre amertume. Nous pardonnons parce que Dieu compte plus pour nous que notre souffrance. Nous pardonnons parce que nous avons confiance que Dieu fera justice. Et nous croyons aux promesses de Dieu et que Dieu n'est pas menteur. Nous avons vu, nous avons commencé à découvrir les promesses du pardon. Nous allons voir dans les prochaines, on continue ce matin, dans les prochains dimanches matin. Nous allons voir ensemble les mythes et mensonges du pardon débutés ce matin, les miracles de l'onction du pardon, les métaphores du pardon. Il y a des portraits bibliques et des métaphores bibliques qui sont extraordinaires pour nous aider à comprendre et à vivre le pardon. Le modèle et la mesure du pardon. Et ce matin, la moisson du pardon. Qu'il y a une douleur, il y a un prix, il y a un risque, il y a un geste de foi à pardonner. mais que Dieu dit que de l'autre côté de ce relâchement, il y a toute une moisson de paix et de bénédiction et de communion avec Dieu et d'action divine et de résultats que dans notre état de pré-pardon, de décision, est-ce que je vais pardonner ou non, nous sommes incapables de voir, mais que lorsque nous pardonnons, il y a tout un univers de la bénédiction de Dieu qui s'ouvre devant nous. J'ai reçu une lettre témoignage que j'aimerais vous lire. Elle est toute fraîche, un témoignage tout chaud, tout frais d'une dame qui a écrit un long email que j'ai réduit et sauté certaines portions, mais une femme qui a donné sa vie au Seigneur récemment, puis elle me dit, lisez cette lettre devant toute l'Assemblée si ça peut aider quelqu'un. Et son témoignage est tout simple, mais je crois qu'il parle à plusieurs. La moisson, la richesse du pardon. Elle écrit, cher Pasteur Ruth, je vous ai souvent entendu partager et lire des témoignages, mais je ne pensais pas en écrire un moi-même. Je suis une nouvelle chrétienne à Nouvelle-Vie depuis un an. Je ne manque pas un dimanche. Je suis enseignante depuis 30 ans et j'aime la communication. Je me régale à chaque semaine d'entendre la Bible et de communiquer de façon vivante. Dieu me travaille et me change. C'est comme si chaque message est pour moi. Dites à la personne près de vous, tu as raison, c'est pour toi. Dites à la personne près de vous. Je pleure souvent lorsque je me reconnais dans les messages et que je dois changer des choses. Elle écrit, j'avais abandonné les églises de ma jeunesse. Je n'avais jamais pensé que d'aller à l'église pourrait nous faire tant de bien. Dimanche le 6 mai a été le sommet, elle parle de cette année, il y a quelques semaines. Dimanche le 6 mai a été le sommet pour moi et ma famille. Votre message sur les offenses et le pardon m'a bouleversé. J'ai 4 enfants et ma fille de 23 ans et moi étions en guerre froide depuis 4 ans. J'ai honte de vous dire que je ne lui avais pas adressé la parole depuis 2003. Ça me déchirait, mais j'étais tellement en colère. Elle m'a raconté, puis je ne l'inclurai pas ce matin publiquement, mais elle m'a raconté tout ce qui avait pris place. Et les détails ne sont pas importants parce que nous avons tous des moments. Tout le monde va vivre des moments où des enfants vont faire une série, des jeunes enfants, des ados, des adultes, ou notre frère, ou notre sœur, ou des amis, vont faire une série de décisions. Cette famille a été bouleversée par tout un drame qui a pris place dans la famille, toutes sortes de déchirements qui a pris place à cause des actions de cette jeune femme. Et ça a déchiré la famille en entier. Puis la dame dit, ma fille avait pris une série de décisions dans sa vie qui nous a tous amenés à une grande douleur, beaucoup de bouleversements. J'aime ma fille, mais elle nous avait fait tellement de mal. J'ai pleuré des nuits, des mois, des années. Votre message m'a fait réaliser comment j'étais offensé et que Dieu et que de faire des gestes vers le pardon était la solution de Dieu pour moi. J'ai appelé ma fille, elle a tout de suite pleuré au téléphone. On s'est rencontrés puis elle m'a demandé pardon 1000 fois. Dimanche passé, elle est venue avec moi à l'église pour la première fois de sa vie pour la fête des mères et elle a été bouleversée. Elle n'arrêtait pas de dire quelle sorte d'église que c'est ça. Toute la famille a été réunie pour la première fois depuis 4 ans pour un dîner de fête des mères. Je suis veuve. Et ma fille n'arrêtait pas de parler de l'Église. Mon fils de 31 ans, qui est un ingénieur et un cartésien, pas intéressé du tout par la spiritualité ou la religion, et complètement indifférent aux Églises, a dit, « Je pensais que les Églises, c'était fini, mais une Église qui ramène ma mère et ma sœur ensemble, il faut que j'aille voir ça. » Je vous parle de la moisson du pardon. Applaudissez la moisson du pardon. Il y a des mythes et des mensonges concernant le pardon que nous voulons exposer ce matin. Je crois qu'il y a une fureur, il y a parfois une résistance à l'extérieur de l'Église et dans l'Église à la notion du pardon à cause des mythes qui y sont attachés, à cause de ce que les gens pensent que le pardon représente. Et je pense qu'il est important que ça va être libérateur pour plusieurs d'entre vous de réaliser bibliquement ce que le pardon n'est pas. Pardonner selon la parole de Dieu, pardonner n'est pas approuver ce que l'autre personne a fait. Ce n'est pas nier l'offense. Ce n'est pas trouver des excuses à la méchanceté des autres. Ce n'est pas justifier le mal pour ôter sa gravité au péché ou fermer les yeux sur le mal qui a été commis. Dans certains cercles, le pardon, c'est comme essayer de nier que quelqu'un m'a fait du mal, que les gens ont mal agi. On pourrait dire en termes très terre à terre, c'est une espèce de pardon de certaines mamans, le pardon d'une mère qui excuse tout, qui voit tout, c'est jamais la faute de son pauvre petit gars. Puis je peux parler comme ça, parce que j'en étais une racaille moi-même dans ma jeunesse, que ma mère elle essayait toujours de blâmer quelqu'un d'autre, c'est toujours ça, pas de sa faute, pauvre petit homme, puis c'est pas lui, puis c'est mon fils, puis t'es un bon garçon, puis etc., etc. Le vrai pardon, ce n'est pas de nier. Ce n'est pas de faire comme si j'ai pas eu mal. Ce n'est pas de faire d'excuser ou de couvrir le mal ou le péché ou la mauvaise action de l'autre personne. Je ne vous dis pas ça avec colère pour les mères. Là. Moi, je vous dis ça avec affection. Je comprends. Tout en comprenant le mal que ça peut faire, je comprends la mentalité des mamans. Ma mère, moi, elle a vécu sa vie comme ça, en niant puis en ayant tout un système de défense pour ses fils. Et mes enfants, maintenant, qui ont 13 et 16 ans, aiment faire parler leur grand-mère de moi quand j'étais jeune. Elle aime ça. Elle aime ça, essayer de savoir le plus possible d'histoire à mon sujet quand j'étais jeune. Histoire que moi, je ne leur ai pas racontée. Mais que... puis une des choses qui fait rigoler vraiment, c'est que la manière que ma mère arrange les histoires pour que ça ne soit pas de ma faute. Ça les fait rire. Même si ça leur a déjà dit, ils reposent la question. Une des classiques dans la maison chez nous, c'est qu'ils ont appris à travers les branches par ma mère et d'autres. Ils ont appris par mon frère et ma mère et d'autres que je me faisais mettre dehors des classes quand j'étais déjà au primaire, puis que les professeurs me mettaient dehors, puis tout ça. Puis là, mon fils ou ma fille va dire, grand-maman, pourquoi mon père se faisait mettre dehors des classes? Puis sérieusement, ma mère répond, écoute, c'est très simple. Moi, je le sais pourquoi il le mettait dehors. C'est parce qu'il était plus intelligent que les autres. Bon, c'est certain que je m'attendais pas à ce que vous riez si fort que ça, là, mais... Elle dit, c'est pas de sa faute. Elle dit, il finissait de voir avant tout le monde. Il finissait avant tout le monde, puis là, lui, il avait fini. Il avait pas de classe avancée dans ce temps-là. Donc il se mettait à parler avec les autres. Elle dit même, parfois, il voulait aider les autres avec ses devoirs. C'est pour ça qu'il dérangeait. Dites avec moi, ah, l'amour d'une mère. Mais le vrai pardon, ce n'est pas de nier ce qui a été fait. Ce n'est pas d'excuser à tout prix la personne et de la déresponsabiliser. Ce n'est pas le vrai pardon. Le vrai pardon, ce n'est pas fermer les yeux sur le mal qui a été fait. Ce n'est pas se laisser piétiner ou abuser. Le vrai pardon, ce n'est pas refuser de porter plainte lorsqu'un crime a été commis. Ce n'est pas refuser de protéger d'autres personnes en danger. L'Église chrétienne, au fil de l'histoire, dans toutes ses dénominations, qu'elles soient catholiques ou protestantes ou évangéliques, l'Église chrétienne a péché. L'Église chrétienne s'est souillée lorsque, au nom du pardon, elle couvrait des criminels et les envoyait ailleurs. J'aimerais vous dire que le vrai pardon, ce n'est pas de faire comme si les événements n'avaient pas pris place, de ne pas protéger d'autres personnes lorsque quelque chose de criminel a pris place. Ça n'a rien à voir. Le vrai pardon, ce n'est pas pardonner, ce n'est pas faire semblant de ne pas avoir été blessé. Ce n'est pas cette espèce de façade-là et de déni où on dit « gloire à Dieu, tout est correct », alors que les gens sont déchirés et se déchirent. Le vrai pardon n'est pas l'obligation du retour absolu à la relation précédente. Il y a des fois où, dans beaucoup de cas, à travers le pardon, on peut restaurer une relation avec quelqu'un, mais il va y avoir des fois où cette relation-là, elle était destructive, elle te détruisait, elle te faisait du mal. Tu ne peux pas, tu ne dois pas restaurer, tu dois pardonner. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de restaurer la relation destructive. Pardonner n'est pas que nous devons toujours agir comme si rien ne s'était passé. Pardonner n'est pas conditionnel à la reconnaissance par l'autre de ses torts. Ça, c'est important. Parce qu'on a tous vécu comme chrétiens ces moments. Vous savez, on a tous vécu qu'on est à l'église, on entend un message sur le pardon. Et là, tout à coup, Dieu se met à parler à notre cœur, puis on pense à une personne qui nous a vraiment fait quelque chose, un chrétien ou quelqu'un qui nous a fait du mal, puis on pense à ça, puis on pense à tout ce qu'il nous a fait, puis on pense à nous ce qu'on a fait, et puis tout ça. Puis là, tout à coup, on sent investi d'une mission de la part de Dieu. Là, je vais aller demander pardon. Et là, tu te mets à jouer la scène dans ta tête, comment ça va se passer. Et dans notre tête, on s'imagine toujours, qu'on voit toujours la scène, qu'on arrive à la personne, qu'on dit, écoute, je peux te parler deux minutes, juste te dire que, vraiment, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ça, c'était pas bien, puis je te demande pardon. Puis dans notre tête, on s'attend à ce que l'autre personne va dire, « Ah, moi aussi. » Les violons vont se mettre à jouer. Et là, la personne va dire, « Non, c'est pas toi qui a fait, c'est moi qui a fait pire que toi. C'est moi qui est coupable. Tu me demandes pardon et t'es une bonne chrétienne. Non, moi, je te demande pardon. » Mais vous avez tous vécu que tu fais juste la première partie de la scène, tu arrives à la personne, tu te mets à blanc, tu te mets à nu, tu dis, j'ai fait ça, je te demande pardon. Puis la personne a dit, « OK, merci, bye, passe en va. » Combien d'entre vous avez vécu? Soyez honnête pendant une seconde. Vous avez vécu que lorsque la personne te fait ça, il y a quelque chose en toi qui dit « Je veux reprendre mon pardon. I want to take it back. » Comment ça? Hey, non, hey, moi, je me mets les tripes sur la table. Moi, puis toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Laisse faire. Je l'enlève. Retire. Pardon annulé. J'aimerais vous dire que le véritable pardon n'est pas conditionnel à l'état de cœur de l'autre personne. Elle va être responsable devant Dieu pour ses actions. Vous êtes responsable pour les vôtres. Toi, tu relâches et la bénédiction de Dieu va être sur toi. Pardonner n'est pas réel seulement si vous avez un moment béni avec la personne. On a tous le rêve qu'on va demander pardon, la personne va nous pardonner pour avoir un moment béni ensemble. Et c'est merveilleux lorsque ça prend place. Il y a des gens qui sont ici qui ont besoin de relâcher, de pardonner des personnes qui sont décédées. Vous ne pourrez pas avoir un moment béni avec eux ou des personnes qui ont fait un départ, qui sont parties de votre vie, des personnes qui sont trop dures pour que vous puissiez avoir un moment avec eux parce qu'eux ne vivent pas ce que vous vivez. Ne vous placez pas sous un joug que si je pouvais juste avoir ce moment-là béni hollywoodien. Non, tu as un moment béni à partir du moment où par la foi, tu fais le geste de ton cœur de relâcher la personne. Toi, tu vas vivre un moment béni. Dieu a une bénédiction pour toi. Le pardonner n'est pas instantané, mystique et hors de notre contrôle ou de nos décisions. Des gens qui disent, combien de fois les chrétiens m'ont dit, lorsque je vais le sentir, lorsque j'aurai plus de rancœur, lorsque j'aurai plus de ressentiment, lorsque j'aurai plus d'émotions négatives, ben là, j'aurai pardonné. Non, il y a des gestes. L'appel au pardon nous appelle à relâcher, nous appelle à faire des gestes, à faire des pas de foi. Et c'est ces pas de foi-là qui vont entamer une œuvre de guérison en nous. Et pardonner n'est surtout pas, lorsqu'on parle de ce que le pardon n'est pas, les mythes et mensonges du pardon, pardonner n'est surtout pas facile, optionnel, sans grandes conséquences ou pris à la légère par le Seigneur. C'est une des choses les plus profondes qui est manquée par un grand segment du christianisme. Des gens qui ont une liste de péchés qui ne se permettraient jamais. Ils ne réalisent pas à quel point que de garder le non-pardon, l'offense, la rancune dans leurs âmes, les dévalise, les vole, les dérobe, les avorte spirituellement. Je veux que vous écoutiez Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Des versets vont apparaître à l'écran, si vous ne pouvez pas les lire dans votre Bible. Mais écoutez le ton, les mots utilisés, les analogies, l'importance accordée par Jésus à cette notion de pardon et d'offense. 5, 17 de l'évangile de Matthieu. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Verset 19. « Celui donc qui violera ou celui qui supprimera de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et regardez bien le contexte maintenant des commandements, de quels commandements il parle et à quel point ils sont importants et au centre de son message pour nous, verset 21. Vous avez entendu ce qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, verset 22, quiconque se met en colère contre son frère, sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère, raca, qui veut dire homme de rien, personne de rien, quiconque diminue la valeur de quelqu'un, abaisse la valeur de quelqu'un, sera justifiable, sera passible de sanction du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne et du feu. Il parle de toute la profondeur des conséquences spirituelles à quelqu'un qui garde amertume, attaque et non pardon dans son cœur. Si donc, et voici la façon très pratique et tellement profonde et spirituelle, la vie à laquelle il nous appelle. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Réconcilie-toi, rapproche-toi, arrange-toi promptement avec ton adversaire. Certaines versions disent, réconcilie-toi le plus rapidement possible avec celui qui t'a fait du mal, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Un appel de la part de Christ, présentant le pardon comme un commandement. Quiconque va enlever de ces commandements, va les enlever, va les soustraire, va les ignorer, ou va enseigner mon peuple, ou va permettre au peuple de se relâcher dans l'accomplissement de ces commandements, sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Et voici maintenant, avant, il était dit que si tu commets un meurtre, tu seras passé de jugement. Mais maintenant, je te parle du meurtre qui est dans ton cœur. Je te parle de tes pensées, de tes rancunes. Je te parle de ce qui habite en toi contre ton frère. Et là, il peint un portrait que nous considérons comme tellement sérieux, tellement important, que lorsque j'arrive à l'église, lorsque j'arrive dans les parvis de Dieu, lorsque j'amène mon offrande, ce qui était à chaque semaine pour eux, lorsque je viens pour présenter ça à Dieu et que je réalise, l'Esprit de Dieu met à mon cœur, je sais dans le fond de moi-même que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Quelqu'un m'a fait du mal ou je lui ai fait du mal. J'ai été blessé ou il m'a blessé ou je l'ai blessé. Je peux même pas, ne remets même pas ton offrande. J'aurais pu vous aligner toute une série de versets bibliques qui disent qu'à ce moment-là, ton offrande ne veut plus rien dire pour moi. Ta louange, tes prières, tout ce qui est extérieur devient le battement des bras dans l'air tant que ton cœur n'est pas réglé avec moi. Non, non, va te réconcilier rapidement avec lui. Pendant que tu es en chemin avec lui, pendant que tu peux le faire, maintenant que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ferme la porte au diable, n'attriste pas l'esprit, dit Paul dans Éphésiens, la même pensée. Il dit, maintenant, réconcilie-toi de peur que le garde ne vienne, qu'il te prenne et qu'il t'amène et qu'il te jette en prison. Il parle d'une prison. Il parle d'une captivité. Que des chrétiens qui pense à captivité, pense seulement à drogue, toxicomanie, pornographie, violence, mensonge, toutes les choses de souillure d'auparavant qui comprennent que la majorité des croyants savent que tu ne peux pas être dans ce style de vie-là à chaque jour et permettre à ça d'être dans ta vie à chaque jour et de venir servir Dieu et honorer Dieu à chaque jour, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui se permettent, qui croient que de garder de l'amertume, garder de la rancœur, garder de l'attaque contre quelqu'un, garder une situation non réglée entre moi et mon frère, ça, je peux le faire très bien en offrant tout le reste à Dieu. La parole de Dieu nous enseigne toute une série de conséquences, de pertes. Cette prison-là, elle est décrite dans les Écritures. La prison dans laquelle tu es jeté lorsque tu jettes toi-même par ton non-pardon. Et je vous donne en terminant ce matin 10 conséquences du non-pardon et d'un esprit rancunier. Je pourrais aligner des dizaines de versets bibliques pour chacune de ces pensées-là que vous connaissez. Mais alors que les musiciens s'approchent, voici maintenant la prison de celui qui refuse de pardonner. Notre communion avec Dieu est entravée. R.T. Kendall, c'est une centaine de versets bibliques à cet égard. Lorsque nous refusons de pardonner, nous attristons le Saint-Esprit, nous réduisons son action dans nos vies. Lorsque nous refusons de pardonner, Dieu n'exauce plus nos prières. Lorsque nous refusons de pardonner, Dieu nous laisse affronter les problèmes de la vie de nos propres forces, que nous nous soustrayons de sa main de protection, de direction et de renouvellement. Que lorsque nous refusons de pardonner, notre amertume ouvre une brèche à l'ennemi et tout ce qu'il y a de destructeur. Que nous obligeons Dieu à devenir notre ennemi, que nous perdons la bénédiction de Dieu sur nos vies. Que lorsque nous refusons de pardonner, nous gaspillons notre temps et nos talents, nos énergies, notre créativité, notre capacité à le servir, alors que nous nourrissons nos rancœurs. Toute une vie gâchée, des années, des mois, des vies entières de talents, de capacités d'accomplissement pour Dieu qui sont ruinées, qui sont tellement diminuées alors que nous nourrissons nos rancœurs. Et nous devenons les esclaves de ceux que nous refusons de pardonner. Personne, tu lui donnes le pouvoir sur toi. Elle n'est même plus là, c'est des événements des fois qui sont arrivés longtemps avant. Et c'est elle qui occupe tes pensées, c'est elle qui détermine ton état d'âme, c'est elle qui contrôle comment tu te sens. Vous avez tous vécu que des milliers de fois, certains pendant des années, revivez ce qui a été dit, revivez ce qui a été fait ou pas fait. Et alors que vous le faites, les émotions que vous vivez, l'abattement que vous vivez, l'abaissement que vous vivez, l'avilissement que vous vivez, et tout ça, vous donnez ce contrôle-là à la personne sur vous. Je dis, par le pardon, un des plus grands miracles qui prend place lorsque je coupe, lorsque je retranche, et que Dieu me donne la grâce de libérer la personne, de lui faire don de mon pardon, qu'il n'y a personne d'autre. Je ne serai sous personne d'autre que le Seigneur lui-même, et il n'y a personne d'autre qui va avoir un contrôle sur ma vie. Je libère afin d'être libéré moi-même. Je libère afin d'être libéré. Et nous perdons le caractère et les caractéristiques de Christ lorsque nous refusons de pardonner. Et nous cachons et gâchons le témoignage de Dieu. Le pardon n'est pas une émotion, c'est un engagement. Ce n'est pas un moment oublié, je l'ai fait, après ça je continue comme avant. Non, c'est une manière de vivre. Le pardon n'est pas facile, mais c'est absolument faisable par la force de Dieu. Je ne parle pas que certains vivent des moments miraculeux où ils semblent avoir un relâchement extraordinaire en un instant. Et d'autres d'entre vous et moi avons vécu que c'est sur des semaines et des mois que je le relâche à Dieu, mais dans ma communion avec lui, il y a une œuvre qui se fait. L'emprise se relâche. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable par la force de Dieu. Le pardon n'est pas sans doute et sans douleur, mais il produit une si grande délivrance. Le pardon, c'est un geste de foi. Et tu n'as pas de garantie. Et lorsque tu pardonnes, il y a une douleur, il y a le mal que ça fait. Et tu voudrais tellement être justifié, tu voudrais tellement avoir que quelqu'un crie que c'est toi qui avais raison. Et tu voudrais tellement que la personne le reconnaisse. Et tu voudrais tellement que ça ne soit pas arrivé. Mais tout ça, il y a une douleur dans le pardon. Il y a des doutes, est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Mais il y a toujours une délivrance. Le pardon et le non-pardon ne sont pas sans conséquences. C'est pourquoi nous faisons ce choix. Le psalmiste a dit de cette façon, c'est le dernier verset de l'avant-midi. Mon âme, psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous mes péchés. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te renouvelle comme l'aigle. Dans un contexte du pardon de Dieu, il y a cette promesse que c'est l'Éternel, c'est le Seigneur qui me délivre de la fosse et me renouvelle comme l'aigle. Lorsque nous parlons cette expression, me renouvelle comme l'aigle, ça ne veut pas dire beaucoup pour plusieurs d'entre nous. L'année dernière, au mois de juin, on est allé en Israël. Et alors qu'on était là-bas, on a eu plusieurs heures à aller dans le désert, dans les canyons et dans le désert avec un bédouin, un juif. Mais que lui, c'était sa vie. C'était un guide. Et on est arrivé sur la hauteur d'un canyon. On regardait tout le bas du désert. Et les déserts, on voyait à perte de vue. Puis là, il nous disait à tel endroit, il y a des psaumes qui ont été écrits, etc. À tel autre endroit, c'est un historien. Et alors qu'on était là, pendant qu'on était là, tout à coup, magnifique, au-dessus de nous, il y a un oiseau qui a passé. Et comme ça, tout simplement, le guide nous dit, regardez, un aigle. Et alors qu'il a vu passer l'aigle, il s'est mis à nous parler de l'aigle. Puis il nous a raconté ce que je vais vous raconter dans un instant. Puis il s'est mis à nous parler de l'aigle. Nous, on n'est pas capable, on ne connaît rien de ça. On lit ça dans les psaumes. Lui, il s'est mis à nous parler de l'aigle comme un Québécois parle du Canadien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'est mis à parler de l'aigle, et puis il s'est mis à papa, voici un aigle, il s'est mis à nous parler de l'aigle, puis on écoutait ça, puis il a dit quelque chose que j'avais déjà entendu, que j'avais déjà lu dans des commentaires bibliques, que j'avais vu par des commentateurs qui expliquent les Écritures. Puis il nous a raconté comment, bien sûr, l'aigle, au fil des années, et bien, dépendant de l'animal, les cycles sont plus ou moins longs et courts, et qu'immanquablement, l'aigle va avoir plusieurs fois dans son existence, dans ses années de vie, l'aigle va avoir plusieurs fois où tout son plumage devient couvert de saleté, devient couvert de souillure, devient couvert, et ça fait comme une croûte sur son plumage, ça devient de plus en plus lourd. Et il y a toutes ces malpropretés qui s'accumulent, il y a cette dureté de plus en plus difficile et pénible de prendre son envol, de moins en moins capable de voler, de moins en moins capable de décoller, et ça couvre ses yeux, la corruption, l'infection en vient à couvrir ses yeux, et le portrait est d'un aigle qui est presque plus capable de voler et qui est rendu presque aveugle. Et l'aigle retarde le plus tard possible ce processus, alors qu'instinctivement, il a été créé pour savoir ce qu'il doit faire. Ce que l'aigle doit faire, c'est qu'il doit déraciner le plumage qui est couvert de toutes ces impropretés. Alors qu'il va le déraciner, alors qu'il va arracher littéralement son plumage, ça fait mal. C'est extrêmement douloureux. Et il le retarde donc jusqu'à temps qu'il soit presque... Il ne voit plus, il ne peut plus voler, il est en danger. Et il se met à arracher le plumage, et alors qu'il l'arrache, avec chaque plume arrachée, il y a une huile qui est relâchée. Le plumage va ainsi se refaire, mais instantanément, alors que l'huile est relâchée, il va avoir un nouveau plumage, une capacité. C'est ce que le psalmiste dit, le psalmiste qui savait, a dit, « Béni soit l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui a pardonné tous mes péchés. Alors que je reçois ce pardon, alors que je répands son pardon, j'évite la fosse, la prison de ceux qui gardent le non-pardon dans leur cœur, et ils me renouvellent comme un aigle. » Oui, ça fait mal. Je déracine des choses qui m'ont fait mal. Mais à chaque fois que je le fais, le poids s'enlève. Mes yeux se remettent à voir ce que je ne voyais plus. Ma perspective redevient ce qu'elle était. Et j'ai la capacité de m'élever et de m'envoler au-dessus de ce qui me tenait captif auparavant. Combattu toute la semaine à savoir est-ce que je vais partager ceci parce que il y a des choses qui sont de nos vies passées que ça fait tellement longtemps et Dieu a fait une grande œuvre qu'on a une pudeur, on a une retenue à en parler publiquement par respect pour nos familles et tout ça. Et en même temps, j'ai vraiment senti, puis ceux d'entre vous qui venaient chaque semaine, c'est très très rare que je parle de ces choses-là très personnelles. J'ai vraiment ressenti de la part de Dieu qu'il y a plusieurs personnes qui avaient besoin d'entendre. J'ai parfois l'impression que les gens qui sont assis dans la salle semblent penser que les pasteurs qui sont en avant, que nous, on n'est pas comme soumis aux mêmes choses que le monde normal. Que lorsqu'on parle de pardon, c'est bien beau, le pasteur parle de pardon, mais lui, il ne comprend pas qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce que moi j'ai vécu, etc. Les gens qui pensent qu'on vit des vies un peu éthériques, comme si le pasteur passe sa semaine à lire sa Bible, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Et puis, s'il y a à pardonner quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'est endormi pendant qu'il prêchait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça notre vie. Ou que nous n'avons pas de passé, que nous n'avons pas de passé. Les gens ont comme cette idée que je mets une cravate en avant en train de prêcher avec un micro, des gens qui pensent que je couche avec mon micro le soir et ma Bible dans les mains, et que je suis né dans une Bible et que le premier mot que j'ai dit, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Non. Les gens d'entre vous qui avez une capacité naturelle à pardonner, que vous avez ce don-là, une nature de pardon, humainement, je pourrais dire, je vous envie. Parce qu'à cause de ma vie, mon caractère, ma famille, où j'ai grandi, ce que j'ai vécu, c'est absolument l'inverse qui m'a été inculqué pendant des années. Le folklore de la famille chez nous, c'est des hommes violents, des hommes crapuleux, des hommes durs, des hommes méchants, infidèles. Et une des plus grandes sources de fierté de la famille Hood chez nous, des hommes, c'était leur capacité de se venger. Tu me fais mal, moi te ravoir. Tu me donnes un coup de poing, je reviens avec un bâton. Tu reviens avec un bâton, moi t'ouvrir comme un poisson. C'est comme suivi cette pensée de. Puis on avait tout un langage, une expression. Puis les histoires t'as raconté de comment c'était. C'est ça qui était glorifié. 2 ans après, il est allé le chercher. 3 ans après, 5 ans après, il est arrivé ici, il est arrivé ça, il s'est passé ici, il s'est passé ça. Je l'ai attendu, mais j'ai donné un chien de ma chienne. Est-ce que vous me suivez? Tout un langage, une vulgarité, tout ce qui vient avec. J'ai grandi là-dedans, moi. Et à cause de l'abus, de la violence, de tout ce que moi j'avais vécu, c'est ça qui brûlait en moi. Je ne vous donnerai pas d'exemple parce que je ne veux même pas glorifier cette portion-là. Mais c'était ma hantise. J'étais capable de porter une haine et des choses pendant des années. C'est ça qui brûlait en moi. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a une grande œuvre qui a été faite. Mais dès mon jeune âge, je me souviens à l'âge de 18-19 ans, j'ai eu pour la première fois dans ma vie chrétienne à arriver à la réalisation qu'il fallait que je déracine des choses. Puis que ça ferait mal. Mais que c'était la seule façon que l'aveuglement s'enlèverait. Que l'huile coulerait, que je pourrais prendre mon envol vers ce que Dieu avait préparé pour moi. Mon père était un homme violent qui nous battait, puis il battait ma mère. Il était méchant, puis il était dur. Puis moi, après que j'ai donné ma vie au Seigneur, à partir de l'âge, je ne me souviens pas aussi longtemps que je peux, peut-être à l'âge de 8 ans, 9 ans. Mais de 8 ans, 9 ans, jusqu'à pendant des années de temps, je rêvais à chaque soir que je me battais avec lui. Toutes les soirs, des milliers de fois. Je rêvais qu'on se battait, puis il m'étouffait, puis je me battais. Vous savez, dans les rêves, des fois, tu cours, puis tu n'avances pas, ou tu n'es pas capable de faire ce que tu devrais faire. Moi, je rêvais toujours nuit après nuit, après nuit, après nuit, après nuit. C'était ça ma vie. Je rêvais tout le temps que je frappais mon père, puis je faisais pas mal. Puis lui, il m'étouffait, puis il me faisait mal. Je rêvais que je m'envolais, puis je me sauvais de lui, puis comme je venais juste pour m'envoler, j'y retombais dans les bras, puis il m'étouffait, puis je me réveillais. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est une grande différence en dire je pardonne, je demande pardon, etc. Et le moment où Dieu, par son Saint-Esprit, te montre qu'il y a des choses à déraciner. J'étais au collège biblique, puis un professeur qui a apporté une série de messages sur le pardon, puis je me souviens que j'avais été tellement confronté par Dieu. Et aujourd'hui, je ne connaissais pas ce passage-là dans ce moment-là, mais à ce moment-là, je réalise que je commençais à arracher le plumage. Puis il y a des personnes qui vivent des choses instantanées. Moi, ça n'a pas été instantané. Ça a été sur des semaines et sur des mois, mais c'était une poursuite de Dieu. Une poursuite du Seigneur, une poursuite de son cœur. J'avais au moins ce sens, 18-19 ans, mais j'avais ce sens qu'à moins que je me libère de ça, je ne pourrais jamais m'envoler, je ne pourrais jamais faire ce que Dieu a pour moi. Je me souviens, après ma première année de collège biblique, je suis allé, je chantais que c'est la direction du Seigneur de le faire, je suis allé voir mon père dans son appart à Montréal, puis je lui ai demandé pardon. Il ne comprenait pas ce que je faisais, puis c'était un homme alcoolique et dur, et tout ce que vous voulez. Incapable de quelques émotions, quelques paroles gentilles, jamais, jamais, jamais. Je commençais à lui parler de ça, puis je le voyais, puis moi, je savais pas trop quoi dire, quoi faire, puis je lui ai parlé. Puis après quelques minutes, je revenais d'un an de collège biblique. Le collège biblique est entouré de chrétiens, mais 4 heures par jour. Tout le monde se donnait des hugs, tout le monde s'embrassait. Gloire à Dieu, Saint te bénisse, Saint te bénisse. J'ai eu comme un réflexe, je suis venu pour lui donner un hug, puis lui m'a juste poussé comme ça là. Voyons, il a fait ça de même. On va leur dire, c'est assez, là. Ça va être ça, notre moment de contact, pour le moment. Mais j'ai senti, dans ce geste d'obéissance, qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Il m'a rien montré. Mais en lui aussi. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vécu le moment merveilleux de prêcher dans une église à Montréal et de voir mon père arriver s'asseoir. Lever sa main pour accepter le Seigneur, s'avancer, devenir chrétien. J'ai eu le bonheur de passer mon père moi-même dans les eaux du baptême. Mon père était devenu mon frère. La vie, ce n'est pas un film d'Hollywood. Je ne peux pas vous dire que tout est devenu parfait, que mon père a reconnu tout ce qu'il a fait, qu'il est devenu un communicateur extraordinaire, puis pour les prochains 20 ans, il s'est mis à rebâtir ce qu'il ne nous avait jamais donné avant. Je ne peux pas vous dire ça. Je pensais que j'avais toute la vie devant moi, mais à moins qu'un an plus tard, à l'âge de 51 ans, mon père est mort d'une crise cardiaque, foudroyé, comme son père l'avait été, les membres de sa famille. J'étais à l'église en train de faire une réunion, puis ils m'ont appelé, j'ai quitté. J'étais à l'église de Saint-Hubert et j'ai quitté, puis je suis arrivé à Montréal juste à temps pour les voir le mettre dans le sac et fermer la fermeture éclair pour l'emporter, la mort de l'emporter. Pas de temps, pas d'années pour rebâtir, pas d'années pour... Mais combien j'étais reconnaissant à Dieu de m'avoir permis, moi, d'avoir libéré, afin, moi, d'être libéré et de vivre cette libération. Et ce matin, on va applaudir le Seigneur, c'est sa grâce. Ce matin, Dieu veut faire cette œuvre-là dans chacun d'entre nous. J'aimerais vous inviter à vous lever avec moi en sa présence et à dire, me voici, Seigneur. Avant qu'on quitte, avant qu'on se mette en mouvement, avant qu'on parte, il y a des choses qui ont besoin d'être déracinées. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Tu ne peux pas voler avec ça. Ça couvre tout ce que tu es, ce que tu fais. C'est comme le poids qui s'est accumulé sur les ailes de l'aigle. C'est trop lourd. Et tes yeux, ta vue spirituelle devient de plus en plus amenuisée, de plus en plus diminuée. Difficulté à voir la bénédiction de Dieu, d'avoir les bontés, de voir l'avenir, de voir les possibilités. Il y a toutes sortes de choses qui sont à toi, qui te sont promises, qui t'appartiennent, qui vont être possibles si tu permets au pardon, au déracinement, de laisser l'huile couler afin que tu puisses prendre ton envol. Béni soit l'Éternel, je n'oublierai aucun de ses bienfaits. C'est lui qui m'a pardonné tous mes péchés et qui m'appelle à pardonner, à relâcher par sa grâce, par sa puissance, afin que j'évite la fosse que l'ennemi avait pour moi et que je puisse prendre mon envol comme un aigle. Ce matin, ce n'est pas un geste légaliste, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est simplement une expression peut-être d'un désir de votre cœur, si vous le désirez. J'aimerais vous inviter à juste lever vos bras vers Dieu comme un enfant vers celui qui l'aime et dire, Seigneur, je veux relâcher quelqu'un ce matin. Je crois que le Saint-Esprit déjà fait une œuvre dans vos cœurs. Met quelqu'un sur votre cœur, met quelqu'un du passé, du présent. Vous allez simplement le relâcher ce matin. Vous allez simplement commencer partout à travers ce lieu avant qu'on chante. Partout à travers ce lieu, commencez à parler à Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es tellement grand. C'est à cause de la grandeur de ton pardon que je peux faire ceci. C'est à cause de la grandeur de ton action par ton Saint-Esprit en moi que je peux faire ceci. C'est à cause de la grandeur de ta patience envers moi que je peux faire ceci. C'est à cause de la grandeur de ta fidélité envers moi que je peux faire ceci. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, je veux relâcher quelqu'un ce matin. Je veux pardonner. Je veux faire le don du pardon. Et alors que je vais relâcher un prisonnier, c'est moi qui vais être libéré. Alors que je vais libérer, je vais être libéré. Alors que je renonce à avoir raison, c'est moi qui va grandir et c'est moi qui va être guéri. Seigneur, tu es grand. Tu es grand, tu es magnifique et tu es digne de louange. Et ce matin, je déclare ta grandeur. Et c'est devant le grand Dieu, par le grand Dieu et pour le grand Dieu que je peux pardonner ce matin. Même qu'on chante, je veux que vous leviez vos voix. Vous disiez, Seigneur, me voici. Tu es grand, mon Dieu.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.